vous m'en direz tant ?
Cette chronique pourra peut-être prétendre à un peu de piquant, puisqu'il y sera question de vaccin. C'est la grande affaire du moment. La solution finale au problème de la Covid-19 pour les uns, une magouille des laboratoires pharmaceutiques et leurs complices gouvernementaux pour d'autres. Une rude tâche en tout cas que de vacciner 7 milliards d'individus, surtout si on se fie au mal qu'on a eu en France pour en vacciner d'abord quelques centaines. L'histoire du vaccin est intéressante en ce qu'elle éclaire la manière dont l'humanité progresse. L'école m'a élevé dans l'idée sommaire, mais patriotique, que notre grand Louis Pasteur était l'inventeur du vaccin. Eh bien, c'était un pieux mensonge. Le vaccin existait bien avant lui. Le mot vaccin nous vient de la vache, et plus précisément d'une maladie qui l'affectait il y a quelques siècles, la vaccine. Au même moment, notre espèce à nous était décimée par ce qu'on appelait alors la petite vérole et qui n'était autre que la variole. En Angleterre, il apparut que ceux qui étaient au contact de vaches atteintes de la vaccine mouraient un peu moins de cette petite vérole, voire n'en étaient nullement incommodés. La coïncidence fit réfléchir. Et en 1796, le médecin Edward Jenner à l'idée d'inoculer chez un enfant du pu prélevé sur une femme infectée elle-même par la vaccine. L'enfant résista à la variole. Edward Jenner était-il l'inventeur du vaccin ? Même pas, car l'idée existait déjà avant lui, mais sous une forme encore plus empirique, presque un remède de bonne femme, consistant à mettre en contact des gens sains avec des malades, mais pas trop atteints. On parlait de variolisation. Il va de soi que ces pratiques étaient regardées avec suspicion et même hostilité, pour des raisons médicales parfois, mais le plus souvent morales ou religieuses. Tout de même, un premier vaccin contre la variole fut rendu obligatoire en Angleterre en 1853. À titre de comparaison, en France, le même vaccin ne le sera qu'en 1902. L'obligation de se faire vacciner exacerba la rage, si j'ose dire, des anti-vaccins, car aux arguments des premiers temps s'ajoutait maintenant celui de l'atteinte à la liberté individuelle. Il fallut, en 1898, introduire dans la loi une sorte de clause de conscience, rappelant un petit peu les objecteurs de conscience du temps où le service militaire était obligatoire. Mine de rien, l'OMS a officiellement annoncé que la variole qui avait fait, au XXe siècle sans doute, près de 300 millions de morts, était enfin éradiquée, le dernier cas ayant été observé en Somalie en 1977. Évidemment, vous trouverez facilement des gens pour vous dire que c'est faux, mais qu'un complot mondial veut que l'on ne parle plus de cas de variole. On se demande même ce qu'il advient des malades. Et notre Pasteur à nous, il a tout de même innové, et de manière significative. D'abord, il s'est attaqué à un virus, celui de la rage. Et surtout, il a montré qu'il n'était pas nécessaire d'inoculer un pathogène dangereux pour obtenir l'immunisation. Un à demi-mort, voire tout à fait mort, suffisait. Nous en sommes maintenant à n'injecter que quelques molécules d'ARN du coronavirus qui nous accable. Le premier vaccin contre la grippe date de 1944. Il a été administré aux soldats américains qui venaient combattre en Europe. Le vaccin contre la poliomyélite fut inventé en 1954. Et la poliomyélite est, grâce à lui, devenue rare en un demi-siècle. Si on regarde l'histoire de la vaccination avec un peu de recul, on peut y voir le passage de la coïncidence à la causalité. Au début, ce ne sont que quelques observations de coïncidences troublantes. Puis, peu à peu, on affine ces coïncidences. Exemple sans doute un peu bête. Ce n'est pas la vache, même sacré en Inde, qui guérit de la variole, mais seulement un élément précis de sa maladie et uniquement lorsqu'elle s'est déjà transmise à l'homme. Puis, dans le pus injecté lors des tout premiers vaccins, on a isolé le germe responsable et donc utile, puis la substance chimique suffisante, etc. À la fin, il reste une molécule dont on peut dire qu'elle est la cause de la maladie, un petit bout du virus lui-même invisible. La science progresse ainsi lentement de l'observation à la compréhension. Autre chose très importante, on a agi bien avant d'avoir tout compris. On voit là que la médecine ne se résume pas à la science. J'ai le plus grand respect pour la science médicale, mais je n'ai garde de négliger d'autres aspects qui sont l'efficacité de sa pratique, de son organisation, l'ouverture d'esprit dont elle doit faire preuve justement pour accueillir parfois sans comprendre des choses étranges, comme par exemple l'homéopathie ou des pratiques venues de traditions séculaires étrangères, la force de l'esprit sur le corps. Dernière leçon de notre histoire de la vaccination, le facteur temps. Presque 2 siècles entre les premières vaccinations contre la variole et l'éradication de cette maladie. Une grosse année entre la découverte du virus de la Covid et la fabrication en nombre de vaccins pour la combattre. C'est un réel exploit scientifique et technique. Ce sera une autre affaire, sans doute plus longue, que d'utiliser cette arme avec suffisamment d'efficacité pour élever notre immunité collective à un niveau rassurant. Et pour revenir sur l'exploit scientifique, il ne faut pas oublier des découvertes déjà un peu anciennes, comme celle de l'ADN, la technique du séquençage de cet ADN, les techniques informatiques permettant de faire cela assez rapidement, etc., etc. Retour sur 1853, où le premier vaccin contre la variole fut rendu obligatoire. La maladie est individuelle, et la vaccination peut être considérée d'abord comme une prévention individuelle, tout comme de s'abstenir de fumer, de boire de l'alcool, de trop manger, d'être trop oisif. Mais il y a la contamination qui transforme une maladie individuelle en problème collectif et qui dicte à l'individu un devoir social. Se protéger, lui, pour protéger les autres. On peut même retourner la phrase « protéger les autres pour se protéger lui-même ». Dans mon enfance, les vaccins étaient obligatoires et personne ne s'en offusquait. D'ailleurs, l'accès à l'école, elle aussi obligatoire, était subordonnée à la possession d'un carnet de vaccination en bonne et due forme. C'est moins le cas aujourd'hui. Beaucoup de parents obtiennent de leur médecin des certificats de contre-indication et l'éducation nationale est bien obligée de tolérer des non-vaccinés qui, a priori, pourtant seraient des dangers pour les autres. En fait, tant que la couverture vaccinale reste à un niveau suffisant, le risque est faible. Mais si elle venait à trop diminuer, nous verrions réapparaître des choses presque oubliées, comme les oreillons, dangereux à l'âge adulte, la tuberculose, et bien ça c'est déjà le cas, la coqueluche, etc. Un point de comparaison est possible avec la conduite automobile. On comprend que faire courir des risques à autrui par une conduite dangereuse est une faute qui doit être sanctionnée. Les conducteurs dangereux se voient privés de leur permis de conduire. Est-ce que les anti-vaccins seront en partie bannis de la société? Par exemple, interdits de stades, de salles de spectacle, de certains travaux au contact du public? Devront-ils se contenter de faire de la radio où on ne risque pas de contaminer qui que ce soit ?